Chapitre 46. Florence marchait au bord du canal de l'Ourcq, le nez dans son écharpe. Un vent à geler les eaux lui frappait les joues et figeait le paysage. Un peu partout, des grues se dressaient, telles des oiseaux de fer. Pantin était en pleine mutation. De nouveaux sites industriels, plus modernes, s'ajoutaient aux silos, menuiseries, manufactures, distilleries, infrastructures ferroviaires et fluviales de la ville. Elle abandonna sur sa droite les grands moulins, gagna l'autre rive et progressa vers le centre jusqu'à atteindre une impasse bordée de hauts murs de briques et de portails, comme si les habitants s'étaient réfugiés derrière des forteresses. Elle sonna au numéro 13 et patienta. Elle avait pris le risque de ne pas prévenir Maxime Raffner de sa venue, car ménager un effet de surprise permettait d'interroger les gens sur le vif. Par chance, elle n'aurait pas à poireauter dans un troquet voisin. Le propriétaire lui ouvrit. Un petit homme avec une moustache grise à la Dali, le crâne rasé et de fines mains de pianiste. Il faisait largement moins que son âge. Ses yeux d'un bleu incroyable étaient perçants et, sur le coup, Florence pensa au regard magnétique de Houdini. Il portait une tenue plutôt négligée, un pull rouge en laine sans forme et un pantalon de velours côtelé. L'inspectrice présenta sa carte et expliqua brièvement qu'elle souhaitait lui parler au sujet d'une affaire en cours. Il l'invita à entrer dans un salon encombré d'un jukebox, de piles de 33 tours et de cassettes qu'il ne savait apparemment plus où ranger. Florence trouvait l'ambiance sinistre et préféra rester sur le seuil de la pièce. Une curieuse appréhension l'enveloppa soudain. Cette maison semblait figée dans le passé.
J'ignorais qu'il y avait des femmes dans la police criminelle,
s'étonna son interlocuteur en reprenant l'arrosage délicat d'un bonsaï avec un vaporisateur.
Et si on me l'avait dit, je ne vous aurais pas imaginé ainsi.
Comment alors? Moche et vieille?
Il lui adressa un sourire.
Plus masculine, peut-être. Racontez-moi plutôt ce qui me vaut votre charmante visite.
Une histoire complexe.
Elle lui montra une photo du verrou à molette.
Dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous fabriquez ce genre d'objet. C'est un verrou qui se ferme automatiquement au bout d'une minute.
Raffner acquiesça, l'air grave.
En effet, il y a mon poinçon en haut à droite. C'est un gimmick destiné aux magiciens qui pratiquent l'escapologie. Je l'ai appelé le cadenas miraculeux.
Pourquoi vous intéresse-t-il?
Il a été utilisé sur une scène de crime. Nous sommes certains que ce cadenas miraculeux appartient à l'assassin.
Raffner posa son vaporisateur sous le choc.
Mon Dieu!
Il a pris le soin de l'installer avant ou après avoir commis un meurtre effroyable, tranquillement.
Vous vous doutez du désarroi qui a été le nôtre lorsque nous avons été confrontés à cette énigme? Un massacre perpétré dans un lieu dont l'unique issue était verrouillée de l'intérieur et sans possibilité de fuite. On a mis plusieurs jours à comprendre comment le tueur était sorti.
Je veux bien vous croire.
Florence ne le lâchait pas des yeux et scrutait ses réactions.
À qui l'avez-vous vendu?
Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question car ce n'est pas un modèle unique. J'ai dû en concevoir une bonne cinquantaine il y a environ 10 ans déjà. Quand on invente un gimmick, on essaie d'en faire l'article dans des festivals ou on le confie à des boutiques de magie, ce qui fait mon cas. Et mon cadenas miraculeux a eu pas mal de succès, puisqu'aucun exemplaire ne m'a jamais été retourné.
Et ces boutiques s'adressent à n'importe qui, je présume. Elles ne sont pas exclusivement réservées aux professionnels.
Il fut un temps où les marchands de trucs demandaient à l'acheteur de réaliser un tour pour s'assurer qu'ils avaient affaire à un magicien. Mais il faut réaliser du chiffre avant tout, alors oui, n'importe qui a pu s'en procurer un.
Florence pinça les lèvres. Encore une piste qui risquait d'engendrer d'interminables recherches.
Vous pourrez me fournir la liste de ces commerces?
Je dois avoir ça quelque part, mais ça remonte à loin et je sais que certains d'entre eux ont fermé depuis.
Ça m'intéresse quand même. Afin de régler ce point tout de suite, j'aurais aussi besoin de savoir où vous étiez la semaine du 2 décembre, et plus précisément les jeudis 5 et vendredi 6 décembre.
Parce que vous me...
Simple formalité, ne vous inquiétez pas. On a retrouvé un objet que vous avez fabriqué à quelques mètres d'un cadavre. Vous pouvez comprendre que cette petite vérification s'impose.
Après un temps où il resta immobile, Raffner finit par acquiescer.
Ça va, je ne le prends pas mal. Vous faites votre boulot, mais je suis un vieil homme au cas où vous n'auriez pas remarqué.
Il alla feuilleter un carnet sur la table, puis fouilla dans un tiroir et revint avec des billets d'avion.
J'étais en Angleterre du lundi 2 au samedi 7, à la convention annuelle Blackpool. Vous n'avez là que mes dates aller et retour, mais j'ai aussi conservé les factures d'hôtels, de restaurants, et une bonne centaine de personnes pourront attester de ma présence sur place.
Blackpool, c'est
la plus grande réunion autour de la magie. Elle se tient dans la ville du même nom, Blackpool.
On y croise des magiciens professionnels, des étudiants, des amateurs, des marchands de trucs, des collectionneurs d'appareils, bref, tout ce qui se fait de mieux dans le domaine.
Florence vérifia les billets et les lui rendit.
Merci. Gardez-le tout précieusement, vous les apporterez lors de votre déposition officielle au Quai des Orfèvres. Vous savez s'il y a un moyen de récupérer une liste de tous les participants à cet événement ?
Sûrement en vous rapprochant de la FFAP, la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. Mais nous étions plus de 3000 et les gens viennent du monde entier pour y assister.
Vous soupçonnez quelqu'un du milieu de la magie, n'est-ce pas ? Pourtant, je vous l'ai dit, n'importe qui aurait pu acheter et utiliser mon cadenas, même vous.
Il n'y a pas que ce verrou, mais tout un faisceau d'éléments qui nous oriente vers un magicien.
Elle jeta un rapide coup d'œil vers une horloge dont la trotteuse tournait dans le mauvais sens, puis revint vers son interlocuteur.
L'homme qu'on cherche a peint le mot « pagode » sur les lieux du crime. Dans la maison où la victime a été enlevée, le mot « Houdini » était tracé sur une cloison. C'est l'association de ces deux mots qui m'a mené jusqu'à vous.
Raffner accusa le coup. Il sembla ailleurs un instant, puis il répondit enfin.
« Je suis désolé, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous.
La piste autour de la provenance de votre cadenas miraculeux risque de ne pas beaucoup m'aider. Elle ne fait que lancer d'autres investigations compliquées qui aboutiront sans doute à des impasses. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre à découvrir ici, avec vous. Dans une lettre que nous a laissée l'assassin, il évoque une porte du secret. »
Elle sortit une copie de la lettre de sa poche.
« Il a écrit très exactement « Je vous souhaite de former la paire, car à travers elle vous atteindrez celle qui vous ouvrira la porte de l'ultime secret. »
On a trouvé la paire, mais auriez-vous la moindre idée de ce que peut signifier ce « celle » ?
Cette fois, Raffner réagit positivement. Un éclat passa dans son regard.
Oui, oui, peut-être. Il faut que je vous montre. Venez.
Il l'invita à le suivre. Ils parcoururent d'étroits couloirs sombres où se succédaient une multitude de cadres, d'affiches de spectacles et de cabarets, des photos jaunies. On voyait Raffner sur scène, beaucoup plus jeune, au milieu d'une troupe de danseuses ou seul dans une veste en queue de pie, en train d'avaler des sabres. Florence avait l'impression de s'enfoncer dans un bunker, au fur et à mesure qu'elle descendait des marches. Les murs en béton brut se rapprochaient, le plafond s'abaissait, et il faisait désormais beaucoup plus froid. Où l'emmenait-il ? Peut-être avait-elle fait une bêtise en débarquant seule ici. Certes, l'homme était âgé, mais il était encore vif et capable de lui planter une lame dans le ventre avant qu'elle ait le temps de dégainer. Ils s'arrêtèrent devant une lourde porte métallique.
N'allez pas croire que je sois paranoïaque, mais il y a là derrière pour des millions de francs de matériel, ainsi qu'une collection unique au monde.
Il fit tourner une molette graduée dans un sens, puis dans l'autre. Il y eut un déclic, et il poussa le battant.
Je n'ai jamais fait entrer dans mon antre quelqu'un qui ne soit pas du métier. Dans un autre contexte, je vous aurais dit que vous êtes une sacrée privilégiée.
Tu parles, songea-t-elle. Je préférerais 10 000 fois être ailleurs.
Sitôt à l'intérieur, il referma. Florence frissonna, mal à l'aise. Il venait de pénétrer dans une immense pièce qui ressemblait à un atelier. Y étaient entreposées d'incroyables machines en réparation, que l'inspectrice identifia au premier coup d'œil. Il y avait là une boîte transpercée d'épées, plusieurs de ces fabuleuses armoires où le magicien disparaissait à un endroit pour réapparaître à un autre. Elles étaient en partie démontées, entourées de marteaux, de scies, de clous. Florence remarquait les trappes dévoilées, les cloisons dissimulées, les miroirs qui ne renvoyaient aucun reflet. Elle comprit également comment, à la voir ainsi exposée, fonctionnait la table de lévitation, cette grande illusion qui faisait fantasmer des milliers de personnes.
« Tellement évident, se dit-elle, mais tellement astucieux. »
« Tout a l'air simple quand on connaît le tour, n'est-ce pas ?» fit Raffner comme s'il lisait dans ses pensées. « Mais accéder au secret n'est pas suffisant, parce qu'un secret seul ne vaut pas grand-chose. Encore faut-il le maîtriser. »
Il désigna une photo encadrée.
Richard Turner, le plus grand manipulateur de cartes de notre histoire, s'entraîne 16 heures par jour. Il répète ses mouvements jusqu'à un niveau de perfection inimaginable. Houdini était de cette trempe-là, un bosseur acharné, prêt à mourir pour son art.
Il l'observa quelques secondes en silence.
Un peu comme vous, finalement. Dans votre métier, à chacun de vos pas peut surgir un danger mortel.
Il lui tourna le dos et continua à avancer, laissant la flic en proie à l'angoisse. Ces plafonds écrasants, cette absence de fenêtres, tous ces engins. Son regard s'attarda sur le petit chalumeau qui était posé par terre, près d'une armature en fer aux allures de corset. Sa vigilance redoubla lorsqu'ils arrivèrent dans une autre salle, plus saisissante encore que la première. Un bond 100 ans en arrière, dans l'univers de Harry Houdini. Partout, des camisoles, des centaines de paires de menottes, de chaînes, de cadenas, des affiches qui ornaient les murs, appelant les gens à venir assister aux exploits du plus grand roi de l'évasion du monde. J'ai racheté la plupart de ces objets à Theodore Hardin, le frère de Harry Houdini. Je l'avais rencontré dans le Massachusetts en 1935 lors d'une convention. J'étais encore jeune et je donnais moi aussi dans l'escapologie à mon petit niveau. On est devenus de grands amis. Un jour, étant dans le besoin, il a décidé de vendre la collection de son frère. J'étais là et j'ai sans doute réalisé l'affaire de ma vie. Ce matériel est aujourd'hui inestimable. On me harcèle pour que je l'expose dans un musée, mais il ne sortira pas d'ici. À côté d'une série de bobines d'un film dans lequel avait joué le magicien hongrois, toutes sortes de caisses se succédaient, affublées d'écriteaux. La caisse truquée, la caisse d'acier, la caisse clouée. Ils passèrent devant une roue géante de torture où subsistaient des liens, et Florence pensa à la façon dont Hélène Lemaire avait été attachée au montant du lit. Son malaise s'accrut. Elle se sentait enfermée, prisonnière de ce lieu irréel. Hafner s'arrêta devant le pot de lait miraculeux, plus haut que lui, et désigna la grande publicité collée à la cloison sur la droite. Selon toute logique, votre père mène ici, affirma le vieil homme, devant l'endroit où se trouvait, il y a encore quelques années, la pagode chinoise de torture. Il ne me reste plus que ce poster, et celle qui pourrait vous ouvrir la porte du secret, c'est certainement Circé.
Circé ?
Une femme illusionniste avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pour la première fois il y a environ 5 ans dans une salle de banlieue. Elle était extrêmement douée, une connaissance impressionnante de l'univers de la magie, une gestuelle fluide et précise. Sa technique de quick change était à couper le souffle. Le quick change, comme Arturo Brachetti, songea la flic. Elle avait vu ce type à la mèche de cheveux dressée en pointe à la télé lors du dernier concours de l'Eurovision, passer d'un smoking à une robe de gala plus vite qu'un éternuement.
Circé était-elle aussi fascinée par Houdini ? Elle connaissait tout de lui, expliqua Hafner. Lorsque je suis allé la saluer après son spectacle et que je me suis présenté, elle m'a mis au défi. Si je la laissais une semaine dans cette pièce, avec de quoi dormir et manger, elle me livrerait le secret de la pagode à mon retour. Une seule exigence, je ne devais en aucun cas entrer avant le temps écoulé. Elle m'a immédiatement plu, alors je l'ai prise au mot. Je lui ai même fait la promesse stupide que, si elle perçait le mécanisme de la pagode, je la lui offrirais. Je pensais ne prendre aucun risque, évidemment. Personne n'y était jamais parvenu.
Mais elle, elle y est arrivée.
Oui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette toute jeune magicienne sortie de nulle part a vaincu la machine. Elle a surpassé tous ceux qui avaient tenté leur chance avant elle et surmonté les dangers que cela impliquait. Naturellement, j'ai été désespéré de devoir tenir mon engagement, mais heureux que cette grande illusion finisse entre des mains qui assureraient la relève. Houdini continuerait à exister. Il poussa un soupir. Ce cercueil de métal et de verre est un piège infernal qui peut tuer si on ne le maîtrise pas. Avec Circé, nous sommes les deux seuls individus au monde à savoir comment il fonctionne.
Sa voix vibrait de nostalgie. Florence se demanda quelle étrange relation avait pu se nouer entre le vieil homme et cette Circé, au milieu de tous ces engins diaboliques. Il faudrait sans doute approfondir la question au 36 quand Hafner viendrait déposer.
Je ne comprends pas grand-chose à votre histoire, ajouta-t-il, mais Circé est intimement liée à la pagode. Elle est peut-être celle que vous cherchez.
L'inspectrice hocha la tête. Selon toute vraisemblance, l'assassin connaissait la magicienne. La réciproque était-elle vraie? Qui aujourd'hui est au courant que Circé possède la pagode?
Toute notre communauté, bien sûr. Les nombreux spécialistes de Houdini aussi. Les collectionneurs, bref, un paquet de monde.
Et quel est le vrai nom de Circé?
Je n'en sais rien, désolé. En ce qui me concerne, elle a toujours été l'enchanteresse de la mythologie grecque.
Une idée au moins de l'endroit où je pourrais la trouver?
Je l'ai croisée au dernier Blackpool. J'ai cru comprendre qu'elle vivait à Paris et qu'elle se produisait 2 ou 3 fois par semaine au Millionnaire, l'ex-strip. Elle y fait des numéros qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel. La scène est trop exiguë pour faire le show.
Ce lieu n'était pas étranger aux flics, surtout à la brigade des mœurs. Le cabaret du 8e arrondissement où se succédaient striptease, numéros de magiciens inconnus et d'artistes de cirque, était tenu par des anciens de Pigalle. Malgré le standing plutôt sélect de l'établissement, il n'était pas rare que des proxénètes, des maquerelles et des entraîneuses de bar y traînent.
« Circé est très douée, mais elle n'a jamais percé », poursuivit-il d'un air attristé. « On a fini par ne plus vouloir d'elle. Il faut dire que ses tours sont particulièrement glauques. »
« Du genre ?»«
Elle a par exemple remis au goût du jour le numéro de la femme coupée en deux, dans une version tellement sanglante que les spectateurs croient à un véritable accident. Certains ne supportent pas et quittent la salle. Circé n'a pas su faire rêver comme se doit de le faire un illusionniste. C'est dommage, elle aurait été une grande, mais cette noirceur a pris le dessus. » Aujourd'hui, pour gagner sa croûte, elle n'a pas d'autre choix que de se limiter à des tours classiques qui ne cassent pas trois pattes à un canard. C'est ainsi.
Florence observa une dernière fois la photo de la pagode qu'elle aurait aimé voir en vrai. Cette machine la fascinait.
Elle ne peut pas se servir de la pagode pour accéder au succès?
La pagode est inutilisable. Elle est beaucoup trop lourde, elle pèse pas loin d'une tonne à cause des vitres.
Et puis, elle est vraiment dangereuse. Elle est plus vieille que moi, ses mécanismes ne sont plus fiables.
Comment elle marche?
Ah, ça. Pour rien au monde, je ne vous révélerai ce secret, à moins d'y être contraint et forcé.
Peut-être serez-vous amené à l'être, qui sait?
Les yeux de son interlocuteur la transpercèrent. Elle eut du mal à soutenir son regard. Alors, pour se donner une contenance, elle lui remit une convocation en le priant de venir déposer au plus vite. Puis ils remontèrent. Elle respira un bon coup quand enfin elle retrouva la lumière du jour. Ça avait été éprouvant là-dessous.
En regagnant le RER, l'inspectrice réfléchit à tout ce que lui avait raconté Raffner. Elle repensa au tableau sinistre de Delphine Escrémieux, au caractère cauchemardesque de ses œuvres. Circé était-elle, elle aussi, une ancienne victime d'André Escrémieux? Figurait-elle sur les clichés d'enfants nus? Était-elle une nouvelle proie pour le méticuleux? Le mystère s'épaississait, mais Florence savait que, d'ici peu de temps, elle aurait les réponses à ces questions-là. Il suffisait d'aller à la rencontre de Circé.